Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Vendredi dernier, nous fêtions le Sacré-Cœur dans une fête solennelle. Et comme cette fête est toujours le vendredi, en l'honneur de la mort de notre Seigneur et son cœur transpercé ce vendredi, eh bien, elle est solennisée le dimanche. Et dans cette révélation particulière de cette adoration du cœur, du corps de notre Seigneur, intimement lié au fait qu'il s'est fait homme, intimement lié au fait qu'il a un corps humain et qu'il a un organe comme le cœur qui réagit aux émotions, aux sentiments, mais aussi à ce que l'on comprend dans notre intelligence et pas seulement dans notre affectivité. Le cœur est un révélateur de ce que nous pensons, de ce que nous voulons, de ce que nous vivons. Alors, méditer dans ce mystère de l'incarnation à travers ce cœur sacré, c'est passer par deux réalités. La première est très belle. Elle est celle justement de l'humanité du Christ. Le fait que de toute éternité, il connaisse le passé, le présent et l'avenir ne l'empêche pas de vivre l'instant. Lorsque, étant un homme, il va entendre ce qu'il savait déjà, comme lorsque le centurion lui demande de guérir son serviteur, eh bien, le Christ est plein de joie et dit à ses apôtres, « Je n'ai pas trouvé autant de foi en Israël parce que ce centurion lui dit de ne pas venir jusqu'à sa maison, mais simplement de vouloir la guérison. Parce que Dieu peut tout et à distance. » Et Jésus va louer d'une manière toute particulière la foi de cet homme. Ou alors lorsque Jésus pleure, il pleure sur Jérusalem, après avoir pleuré sur la mort de son ami Lazare. Or, Jésus savait que Lazare allait mourir, il le savait de toute éternité. Il savait que Jérusalem serait détruite en l'an 70, mais il le dit, et il pleure. Nous n'avons pas de dévotion particulière pour les pleurs du Christ. Mais nous avons une dévotion particulière pour son cœur sacré, pour l'émotion qu'il a ressentie à ce moment-là. Et nous-mêmes, nous sommes tellement habitués à cette adoration du cœur sacré de Jésus que lorsque nous voyons la statue qui est à votre gauche, qui est bien faite, qui n'est pas mièvre, qui n'est pas très très sucrée, d'autant plus qu'elle a été peinte de manière assez austère, vous n'avez pas les yeux, les pommettes rouges ou un cœur trop dessiné. Vous avez par contre la vision de Sainte Faustine qui se trouve à votre droite, près de l'autel des âmes du purgatoire, qui, elle, est un peu plus particulière. Les goûts et les couleurs, n'est-ce pas, et l'appréciation de la beauté esthétique d'une peinture ou d'une statue est propre à notre éducation, notre culture, notre sentiment, notre caractère. Mais au-delà de tout cela, il y a une grande réalité. C'est que Jésus est vraiment un homme, qu'il est vraiment Dieu et qu'il a vraiment des sentiments humains. Et c'est la raison pour laquelle ce culte du Sacré-Cœur a grandi et grandit encore, car dans le Nouveau Testament, il ne nous est pas permis facilement de considérer la colère de Dieu et les punitions divines, au point même que nous les oublions totalement. Mais dans un premier temps, lorsqu'en effet nous méditons sur la réalité du cœur sacré de Jésus, nous voyons surtout cette bonté humaine, cette miséricorde. Le cœur qui se penche sur la misère, le cœur qui est auprès de la misère, la miséricorde. Et alors, nous sommes consolés. Mais si nous avons faim et soif de la justice, parfois nous pensons que la miséricorde de Dieu est trop bonne et que le culte du Sacré-Cœur, c'est trop gentil et c'est réservé pour les personnes gentilles. Pourtant, cette miséricorde qui est authentique, elle est particulièrement exigeante. Et c'est le deuxième temps. En effet, pour écarter la colère divine, l'indignation divine par rapport au péché, par rapport à la malice, par rapport à la destruction d'une famille, pour une question d'héritage, c'est toujours l'exemple que je prends, il est assez léger et prime sautier par rapport à d'autres cas plus graves, et pourtant il est particulièrement grave dans certaines familles. Des parents qui ne parlent plus à leurs enfants, des frères et sœurs qui ne se parlent plus, pour des questions d'héritage. Et là, voyez-vous, quelle déception pour Dieu, lui qui nous attend, lui qui nous veut paisibles, qui nous veut courageux et forts, qui nous veut aimants, qui nous veut faisant ses efforts de relation les uns avec les autres, pour faire de la terre non pas un ciel, mais tout de même, pour diminuer le nombre de nos péchés, de nos caprices, de nos duretés, de nos mépris, pour que la vie soit non pas forcément belle, agréable, mais paisible. Non pas toujours être joyeux, avoir le cœur qui bat très fort et chanter des chants très joyeux pendant la messe, pour vous dire que à tout moment vous devez être dans la joie. Ici, en sortant, à tout moment. Et si vous n'êtes pas en train de sourire et en train de chanter, vous êtes de mauvais chrétiens. Non, on n'est pas toujours dans une joie délirante. Mais nous sommes appelés quand même à la paix de notre conscience, à la joie qui consiste à saisir et à vivre l'honnêteté et la justice dans sa simplicité. Le fait de ne pas être cause d'une querelle, cause d'une séparation, cause d'un froid entre deux amis. Que nous soyons le plus possible innocents, c'est-à-dire celui qui ne nuit pas. Alors, sinon, qu'est-ce qui va nous arriver ? Si nous épuisons la miséricorde de Dieu, si le monde, la France, l'Europe, le monde entier, dans tel ou tel pays, sont dans une telle apostasie, une telle indifférence vis-à-vis de la volonté de Dieu, que même le cœur du Christ se lasse de pardonner. Ça serait vraiment étrange. Et c'est la raison pour laquelle nous fêtons le Sacré-Cœur et nous disons à notre Seigneur, oui, nous sommes heureux que vous soyez l'un des nôtres, que vous ayez un corps comme nous, que vous ayez une mère et que votre cœur ait été sensible comme tout cœur humain. Mais voilà que la Vierge Marie nous avertit avec sa bonté maternelle, son cœur maternel, son cœur immaculé, que les offenses parfois atteignent un niveau tel qu'elle a du mal à retenir le bras de son Fils. Et nous avons toute une série d'apparitions mariales, ne retenons toujours que celles qui sont reconnues par l'Église, et qui nous disent que toutes ces offenses au cœur sacré de Jésus, mais aussi l'indifférence vis-à-vis de l'histoire du salut. Jésus, le Sauveur, mais qu'il y ait eu des saints ou des saintes, qu'il y ait eu une femme choisie pour être la mère de ce petit enfant, c'est pas important. c'est pas important. Et voilà que l'enfant Jésus, voilà que notre Seigneur demande réparation par rapport aux péchés qui sont commis contre sa mère. Pourquoi dire cela? Mais parce que nous avons, avec 40 paroissiens, nous revenons de Fatima. Et la Vierge Marie nous dit, voilà, mon fils voudrait que l'on répare les péchés qui sont commis contre moi. Jacinthe, François, 8 ans, 7 ans, Lucie, 9 ans, voit l'enfer. Et alors, de nos jours, c'est impossible, dans la miséricorde de Dieu. Et en effet, la Vierge Marie, l'enfant Jésus qui apparaît à Lucie, veulent que les âmes arrêtent de faire du mal et ne soient pas punies et ne soient pas condamnées, mais qu'elles se convertissent et qu'elles vivent. Le message de Fatima est donc un message de vie. Certes, il y a un avertissement, mais c'est un message de vie, de supplication pour que nous puissions nous convertir. Ça commence par des enfants. Le petit François de Fatima, la petite Jacinthe, avaient la promesse d'aller au ciel, mais ils savaient qu'ils allaient mourir bientôt. Et ils ont beaucoup prié, avec des prières d'enfants. Et nous, est-ce que nous prions? Est-ce que nous prenons le temps de prier le chapelet, réciter le chapelet, dire le chapelet? C'est pénible, mais priez le chapelet, parce que ce sont les paroles de l'ange, les paroles de Sainte Élisabeth, le Notre Père. Voilà ce qui, pour juillet-août, vous permettra de garder cela pour la rentrée. Nous n'avons pas forcément d'idée pour une prière personnelle, un élan de notre cœur. Eh bien, soyons concrets. Eh bien, prions le chapelet. Si nous n'avons rien à dire à Dieu, au moins, prions le Notre Père et le Je vous salue Marie pour aller vers Dieu. Et en prenant 12-15 minutes par jour à penser à Dieu, à l'invisible et au surnaturel, eh bien, cela ancrera notre foi. Oui, je n'ai rien à vous dire de très original que de prier le chapelet, parce que le cœur sacré de Jésus se soucie du cœur immaculé de sa mère. Et pour terminer, en 1929, l'enfant Jésus dit à sœur Lucie, « Est-ce que tu as demandé, est-ce que tu as obtenu des prêtres, de l'évêque, la prière du premier samedi du mois, la communion réparatrice du premier samedi du mois. Parce que sinon, vous allez faire comme le roi de France. Comme le roi de France. Qu'est-ce que l'enfant Jésus dit à une Portugaise du roi de France, qui en 1689 avait refusé ou n'avait pas su, on verra au jugement dernier, de mettre l'image du Sacré-Cœur sur le drapeau du Royaume de France. Ainsi donc, cela tient, sans jeu de mots, cela tient à cœur à notre Seigneur, que nous ayons une dévotion par rapport à cette bonté de son cœur humain, et que nous ayons aussi une dévotion par rapport à la bonté du cœur immaculé de Marie. Et ce n'est pas une dévotion pour enfants, ou ce n'est pas une dévotion pour ceux qui aiment bien les images très sucrées. C'est une dévotion authentique. C'est celle de notre propre cœur, car nous avons des sentiments. Parfois nous nous ennuyons, parfois nous sommes tristes, parfois nous sommes joyeux, mais tout cela, c'est notre intelligence, notre volonté et notre cœur qui le vivent. Alors demandons au cœur sacré de Jésus, au cœur immaculé de Marie, de nous toucher et de nous permettre de faire grandir notre foi, notre espérance et notre charité, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.